La question que nous vous posions vendredi, c'est-à-dire à l'avant-veille du deuxième tour du scrutin législatif en France, on vous posait la question suivante. Êtes-vous inquiet des résultats des élections législatives françaises? Oui, non. Alors Blaise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question?
Alors Didier, nous avons un léger problème technique, donc je n'aurai pas les résultats exacts, mais... Nos auditeurs étaient inquiets hier lorsque j'ai vu les derniers résultats. Nos auditeurs étaient majoritairement inquiets sur nos trois différents réseaux sociaux. Nous sommes avec notre invité pour décrypter ces élections. Benjamin Billard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes politologue au CRISP, spécialiste des extrêmes. Petite surprise, le Nouveau Front Populaire est le grand vainqueur du second tour des élections législatives françaises et le Rassemblement National arrive, lui, troisième, je le disais. C'est une surprise, non?
Oui, tout à fait. C'est un renversement de tendance par rapport au résultat des élections européennes du 9 juin dernier, par rapport au résultat du premier tour de l'élection législative et par rapport à ce qu'indiquait la plupart, en tout cas, des sondages jusque très peu de temps avant les élections. C'est en effet une surprise assez nette, non seulement parce que le Rassemblement national ne dispose pas d'une majorité absolue, ça on pouvait s'y attendre quelques jours encore avant les élections, mais aussi parce qu'il ne dispose pas d'une majorité relative. Il n'est pas la première formation politique, il n'est pas la deuxième formation politique, il est la troisième avec 143 sièges à l'Assemblée nationale sur les 577 qu'elle comporte, c'est-à-dire une progression, il faut le souligner. Cette formation a une capacité d'influence importante à l'issue de ce scrutin, néanmoins, ce n'est pas à la hauteur de ses ambitions.
Plus à peu près 70% de participation hier lors de mobilisation pour ces élections, c'est ce fameux front républicain dont on a parlé qui a fonctionné.
Oui, en effet, c'est un élément important que l'on peut repérer. Il y a eu un très grand nombre de retraits de candidatures et un report de voix assez massif selon les formations politiques, mais très clairement, c'est quelque chose qui a joué. On peut le voir là où les duels ont opposé des listes Rassemblement National à d'autres listes, notamment des listes Ensemble ou des listes des Républicains, où il y a eu un report de voix massif en faveur de la liste dite républicaine, c'est-à-dire celle qui n'est pas issue du Rassemblement National. Cela étant, il y a d'autres éléments aussi, ça n'explique pas tout. Je pense que c'est un élément important de l'équation. Pour mieux saisir la déception rencontré par le Rassemblement national, n'oublions pas aussi qu'un certain nombre de candidats issus de cette formation, particulièrement durant l'entre-deux-tours, se sont montrés impréparés, incompétents, voire même parfois ont participé à la diffusion d'expressions qui pouvaient rappeler la radicalité à laquelle nous a longtemps habitué ce parti d'extrême droite. Tout ceci pour démontrer le fait que finalement, il y avait d'un côté Jordan Bardella qui essaye de se montrer capable, prêt à exercer le pouvoir, et de l'autre des candidats, selon les circonscriptions, qui n'étaient pas nécessairement alignés, en tout cas en termes de capacité ou de normalisation de l'image.
Au-delà de cette victoire de la gauche, le Rassemblement National fait quand même un bon score et a de nombreux sièges. On le rappelle, ils ont donc 143 députés qui siégeront avec les Républicains et le Rassemblement National. Donc 143 députés qui siégeront. Malgré cette troisième position, le vote des Français est clair. Ils voulaient faire passer un message.
Oui, on ne peut pas ignorer le fait que c'est une progression. Le parti en disposait de 88 jusque récemment. Il progresse, je ne vais pas dire qu'il s'est quasi doublé, mais pas loin son score. Ça veut dire qu'il garde une capacité d'influence importante, qu'il a toujours, et même de manière renforcée, une capacité à saisir le Conseil constitutionnel, puisqu'il faut 60 sièges. Il a la capacité de déposer une motion de censure, puisque là aussi, il en faut 58. On voit qu'il a loin, il a largement le nombre requis. N'oublions pas aussi que le résultat des élections détermine la part de financement public à laquelle peuvent prétendre les partis politiques. Et ici, en l'occurrence, le Rassemblement national va pouvoir se préparer un beau trésor de guerre en vue des élections municipales de 2026, mais surtout des élections présidentielles de 2027. Donc, en effet, un résultat qui est loin des ambitions, des attentes auxquelles pouvait prétendre ce parti, mais qui reste un important score pour l'extrême droite.
Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole. Qu'est-ce qu'on doit attendre de lui maintenant cet été?
on est en tout cas dans une période d'incertitude qui vient de s'ouvrir avec les Jeux Olympiques qui s'annoncent tout prochainement. On voit qu'il n'y a pas de majorité absolue qui se dégage, donc pas de gouvernement finalement naturel qui se dégagerait des résultats de ce scrutin. Le président Emmanuel Macron va devoir désigner et nommer un premier ministre ou une première ministre le cas échéant, mais on voit qu'il ne sera pas évident de pouvoir fonctionner comme tel. Est-ce que ce sera une personne à la tête d'un gouvernement minoritaire? Est-ce que ce sera une personne à la tête d'un gouvernement de coalition? C'est-à-dire à chaque fois, dans toutes les hypothèses, tous les scénarios, avec la notion de compromis, la nécessité de rechercher des compromis qui sera au cœur des processus dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas toujours évident. Je me souviens que la culture politique française n'est pas marquée, comme c'est le cas en Suisse, comme c'est le cas en Belgique, par exemple, par cette recherche constante du compromis autour de grands enjeux qui divisent la société.
Gabriel Attal a annoncé qu'il présenterait sa démission et Jean-Luc Mélenchon, hier, il a pris la parole devant ses partisans. Il a déclaré que le président de la République doit ou bien s'en aller ou nommer un premier ministre issu du nouveau Front populaire. Il y a des chances de voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon ?
Je ne pense pas, parce que c'est une personnalité clivante qui ne rassemble pas, y compris suffisamment à gauche. Par ailleurs, n'oublions pas que dans son discours, Jean-Luc Mélenchon a aussi indiqué que le nouveau Front populaire appliquera son programme, rien que son programme, mais tout son programme. On ne peut en dissocier les partis. Fin de citation. C'est important parce que le nouveau Front populaire n'a pas une majorité absolue. Et quand on entend ces propos de Jean-Luc Mélenchon, on voit en réalité qu'il n'est pas ouvert au compromis, qu'il veut, malgré l'absence de majorité absolue, mettre en œuvre tout son programme sans réelle concession. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on peut analyser de cette partie du discours de Jean-Luc Mélenchon. Donc il semble assez compliqué d'envisager Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Néanmoins, je pense que le nouveau Front populaire aura un rôle essentiel, évidemment, dans la gestion de l'État dans les mois à venir.
Benjamin Billard, sujet sur Radio Judaïka oblige, on a beaucoup parlé de l'antisémitisme lors de cette campagne. Selon vous, le Rassemblement National était le meilleur rempart contre ce fléau ?
Non, je ne pense pas. Classiquement, le Rassemblement National a plutôt, ou s'est plutôt distingué sur cette question. On voit qu'il est en voie de normalisation, de dédiabolisation depuis un certain nombre d'années, qu'il a tenté d'élargir sa base électorale, y compris auprès d'un électorat de confession juive. Donc on voit ici que clairement, il a changé de fusil d'épaule, de stratégie. Je ne pense pas qu'on puisse parler de rempart à cet égard. Clairement pas.
Et sur LFI qui a été targué d'antisémitisme, nombreux de leurs candidats, comment se positionner par rapport à cela?
Je pense qu'on est ici dans un cas de figure très très différent, avec des propos très durs par rapport à l'intervention d'Israël suite aux attentats perpétrés par le Hamas en octobre dernier. Certains sont antisémites, d'autres finalement ne sont pas qualifiables en soi d'antisémites selon les expressions, selon les personnes qui les utilisent. On voit que c'est quelque chose qui a pris une place majeure dans le cadre alors de la campagne, mais déjà bien en amont, le nombre d'agressions, de violences à caractère antisémite, de manière générale et bien au-delà des partis politiques, a été multiplié, selon le CRIF, par 4 en un an. Ce qui, évidemment, est très important et ça permet de voir un peu la place que la question a pu avoir dans le cadre de cette campagne.
Et nous aurons évidemment l'occasion de décrypter l'actualité française dans ces prochaines semaines parce qu'elle s'annonce relativement intéressante. Merci beaucoup Benjamin Billard d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes politologue au CRISP, spécialiste des extrêmes. À bientôt.
Avec plaisir, bonne journée.